France Inter.
Il est 1h, le flash, Victor Costa-Mounier. Donald Trump a ordonné ce vendredi soir le déploiement de 2 sous-marins nucléaires dans des zones appropriées, fermez les guillemets. Le président américain dit répliquer à des commentaires provocateurs de l'ancien président russe, Dmitri Medvedev, sans indiquer le contenu de ses propos. La Russie, qui n'a jamais lancé autant de drones contre l'Ukraine qu'en ce mois de juillet, 6297 très précisément selon les chiffres des autorités ukrainiennes. Recul des bourses mondiales ce vendredi après la signature des décrets d'application des droits de douane par Donald Trump la nuit dernière. Baisse sur les marchés américains mais aussi européens, presque moins 3% pour le CAC 40. Les marchés qui s'inquiètent aussi de la légère augmentation du taux de chômage aux États-Unis. Il atteint 4,2% en juillet. La France a largué ce vendredi 40 tonnes d'aide humanitaire sur la bande de Gaza avec l'appui de la Jordanie, des Émirats Arabes Unis et de l'Allemagne. Des largages considérés comme insuffisants par les ONG Médecins du Monde et Amnesty International. Mais aussi par Emmanuel Macron sur X, le président français appelle Israël à ouvrir un plein accès humanitaire pour répondre au risque de famine, notamment via les acheminements par voie terrestre. En visite ce vendredi dans l'enclave, Steve Witkoff, l'émissaire du président américain Donald Trump, a lui visité un centre de distribution d'aide. Il a promis d'augmenter l'aide humanitaire. Le parquet de Nanterre a requis un procès pour viol contre le défenseur du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi. L'international marocain est accusé d'avoir violé une femme à son domicile en 2023. Le joueur a lui affirmé avoir seulement embrassé la jeune femme. C'est maintenant au juge d'instruction de confirmer ou non le réquisitoire du parquet. 2000 foyers de fièvre catarrhale ont été recensés en un mois. La maladie de la langue bleue se répand de plus en plus dans les élevages ovins. Face à cette recrudescence, le ministère de l'Agriculture et la Fédération nationale des ovins ont appelé ce vendredi les éleveurs à vacciner d'urgence leurs bêtes contre cette maladie qui entraîne notamment des troubles respiratoires mais affecte aussi la fertilité et la production laitière. Week-end de chassés croisés sur les routes et une journée de samedi classée noire par bison futé dans le sens des départs. En Ile-de-France, la circulation est déjà dense cette nuit. Demain samedi, les difficultés sont surtout attendues sur les autoroutes en direction de l'Atlantique et de la Méditerranée. La montagne, lui, sourit. Deuxième victoire consécutive pour Maëva Skiban sur le Tour de France. La Française s'est imposée sur la 7e étape ce vendredi entre Bourg-en-Bresse et Chambéry, d'où s'élancera ce samedi la 8e étape avec une arrivée à presque 2000 mètres au col de la Madeleine. La Française Pauline Ferrand-Prévot est toujours deuxième au général à 26 secondes de la Mauricienne Kim Lecourt.
Inter, la nuit. Fermez les yeux. Ouvrez les oreilles.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur France Inter. La Commission européenne est en train de signer en ce moment même un texte très attendu, le code de bonne pratique pour l'IA générative, notamment dans le domaine de la création. Ce texte est non contraignant mais décisif pour l'application du futur règlement européen sur l'intelligence artificielle, l'IA Act, qui entrera définitivement en vigueur en août 2026. Alors un petit rappel, l'IA générative, qu'est-ce que c'est ? Il s'agit d'une intelligence artificielle capable de générer du nouveau contenu à partir de données existantes. Cela peut être des textes, des images animées ou non, des sons, des vidéos. Alors aux géants de l'intelligence artificielle, que sont OpenAI, Google et Mistral notamment, le code impose donc désormais plus de transparence. Il leur faudra documenter ce qu'ils utilisent pour entraîner leurs modèles et respecter le droit d'auteur. Mais les fournisseurs et développeurs sont encore libres de se conformer ou non à ce code, pas encore de sanctions donc à ce stade. Ce qui explique sans doute la forte défiance des créateurs. Les artistes européens redoutent une transparence insuffisante. Les États-Unis, quant à eux, poussent dans l'autre sens. Meta refuse de signer et l'administration Trump dénonce un texte hostile aux entreprises américaines. Alors comment savoir si une IA a appris à chanter avec votre voix, à composer avec vos notes ou à écrire avec vos mots? Si elle ne dit pas ce qu'elle a ingéré, l'Europe est prise en étau entre la pression des GAFAM et celle des artistes. À un an de l'entrée en vigueur de l'IA Act, elle tente néanmoins de poser un cadre. Le bras de fer ne fait que commencer. L'IA peut-elle collaborer sans copier, créer sans voler? On en débat jusqu'à 12h45.
France Inter.
débat de midi. Saskia Deville.
Chers auditeurs, chères auditrices, si le débat vous anime, si vous avez des questions à poser à nos invités, vous pouvez participer à ce débat. Réagissez sur l'application Radio France ou envoyez-nous vos notes vocales sur le WhatsApp de l'émission au 01 45 24 7000. Pour en débattre aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir en studio Brigitte Lecordier. Bonjour Brigitte.
Bonjour.
Vous êtes comédienne et directrice artistique dans le doublage, voix française du personnage Sangoku de Dragon Ball Z et de Oui, oui, notamment. Vous êtes aussi à l'origine de la mobilisation Touche pas à ma VF, on en parlera.
Touche pas à ma VF.
Touche pas à ma VF, tout à fait. Marc-Olivier Deblanc, bonjour.
Bonjour Saskia.
Vous êtes avocat spécialiste en droit de la création, fondateur du cabinet Barnett Avocat et par téléphone, l'auteur, compositeur et interprète Friandia, on en parlera. Benoît Carré, bonjour.
Bonjour.
Et enfin, depuis Bruxelles, depuis la Commission européenne, Thomas Régnier, porte-parole de la Commission en charge du numérique. Bonjour à vous, Thomas Régnier.
Bonjour.
Alors, avant de se pencher sur des réflexions juridiques, éthiques, philosophiques, il faut tout d'abord peut-être comprendre le fonctionnement des IA génératives. Quel peut être son impact dans le domaine de la création ? Et je vais tout d'abord me tourner vers vous, Marc-Olivier Deblanc.
Alors, il faut effectivement comprendre, peut-être partir d'une distinction fondatrice, qui est la distinction entre l'IA analytique, l'intelligence artificielle analytique, et l'intelligence artificielle générative. L'IA analytique, c'est un outil en réalité. C'est une base de données qui va permettre de définir des systèmes, des patterns, et de les reproduire pour des fins de recherche. Donc c'est tout à fait louable et on peut s'en servir dans le domaine de la musique, dans le domaine de l'édition littéraire, pour faciliter certaines tâches. Bon, ça a été utilisé depuis longtemps. À pas confondre, par exemple, avec les supercalculateurs, comme on a vu que le champion du monde d'échecs, il y a une quinzaine d'années, a été battu par l'ordinateur type Blue. Et très récemment, et là c'était de l'intelligence artificielle, le champion du monde de Go a été battu par une machine d'intelligence artificielle. Donc ça, c'est un mélange de supercalculateurs, c'est-à-dire d'algorithmes, et d'intelligence artificielle. Quelle est la différence ? C'est que, auparavant, et l'intelligence artificielle analytique, c'était le cas, c'était des analyses d'algorithmes, de méthodes, de systèmes pour aboutir à des résultats sur des bases de données. La différence avec l'intelligence artificielle générative, c'est qu'elle génère, si je peux me permettre, c'est-à-dire qu'elle génère du contenu. Alors, on va se poser la question de savoir si ce contenu, ce sont des œuvres ou pas. Et si ce contenu est protégeable ou pas. Et le vrai sujet qui nous concerne tous ici, c'est que l'intelligence artificielle générative utilise des bases d'entraînement qui, elles-mêmes, utilisent des contenus préexistants qui sont protégés par le droit d'auteur ou par les droits voisins du droit d'auteur.
Alors à quel moment, et je vais vous demander ça à vous Thomas Régnier, je le rappelle porte-parole de la Commission européenne en charge du numérique, à quel moment justement l'Europe a-t-elle senti qu'il fallait créer une réglementation au niveau européen ?
Alors permettez-moi peut-être de commencer juste par un commentaire, une réflexion un peu plus générale sur l'intelligence artificielle de manière générale. On est face à une avancée qui va littéralement bouleverser notre histoire et nos vies. Pensez par exemple à l'imprimerie, l'électricité à l'époque, Internet. Aujourd'hui, l'IA est la nouvelle avancée que nous allons devoir accompagner aujourd'hui. On se pose plus la question en Europe, est-ce qu'on veut de l'IA ou est-ce qu'on ne veut pas d'IA en Europe ? Il va falloir qu'on vive avec l'IA, mais on veut une IA responsable. Une IA qui, l'intelligence artificielle, qui ne va pas remplacer les médecins, mais par contre les aider à sauver des vies, à traiter les cancers, à produire plus de nourriture, à concevoir une énergie propre. Aujourd'hui, c'est vraiment dans cette inscription, dans ce volet politique-là, dans cette vision politique-là, que la Commission européenne travaille. Alors, sur votre question plus précise...
Oui, voilà. Pourquoi faut-il réglementer ?
Tout à fait. Pourquoi faut-il réglementer l'IA ? Parce que l'intelligence artificielle, bien entendu, présente un certain nombre de risques, à commencer par nos artistes, nos écrivains, nos musiciens. Comment leurs droits d'auteur sont respectés aujourd'hui quand ces géants de l'IA entraînent leur modèle ? La question qu'on se pose aujourd'hui ne vient pas simplement dans le contexte de l'intelligence artificielle, mais c'est quelque chose que nous réglementons déjà depuis 2019, avec notre directive sur les droits d'auteur qui a été transposée dans tous les États membres, qui définit justement des règles très claires en matière de protection de nos artistes.
Brigitte Lecordier, oui. On va demander à une personne directement concernée, hein, je le rappelle, comédienne et directrice artistique dans le doublage. Quels sont les risques et peut-être l'impact que cette IA générative a eu jusqu'ici sur votre carrière?
Ben, nous, en fait, on risque de complètement disparaître comédien de doublage, parce que nous, on se moque des droits d'auteur. Ce qui est important, c'est que nos voix, nos data se baladent partout, on ne sait pas où, il n'y a aucune traçabilité. Et nous, on a fait un collectif, justement, Touche pas ma VF, pour représenter tous les comédiens. Effectivement, les syndicats et l'association Les Voix vont voir, effectivement, le CNC et toutes les associations qui nous défendent pour, effectivement, les droits d'auteur et tout ça. Mais nous, fondamentalement, notre lutte, elle n'est pas là-dessus. Elle est sur un doublage humain fait par des humains. C'est-à-dire que notre inquiétude à nous, c'est vous avez grandi avec nos voix, les gens nous respectent et nous aiment pour ça, et demain, les enfants grandiront avec des robots, seront abreuvés par des voix synthétiques. Et est-ce qu'on peut laisser ça? En fait, nous, on parle plus d'éthique et de philosophie. Et en plus, notre métier à nous, comédiens de doublage, c'est une exception culturelle, il faut le savoir. Partout dans le monde, il y a du doublage, mais ce doublage français est unique au monde. Et voilà, on peut le traiter comme une exception culturelle. Je pense que notre juriste pourra nous en parler. Et voilà, et c'est là-dessus que nous, on se bat. C'est pour des humains, des voix humaines faites par des humains, du travail humain fait par des humains. Voilà.
Marc-Olivier Deblanc.
Oui, alors c'est très intéressant ce que vous dites, puisque le droit d'auteur à la française, il ne faut pas oublier que c'est la France qui a littéralement inventé le droit d'auteur, versus le copyright aux États-Unis. C'est un droit d'auteur personnaliste qui est fondé sur le génie humain, sur la création, sur l'interprétation, c'est-à-dire au bout de la chaîne, une intervention humaine. Et alors c'est très intéressant, puisque le code de la propriété intellectuelle ne définit pas l'œuvre, il ne définit même pas ce que c'est qu'un auteur. En revanche, il définit l'originalité. Et l'originalité, c'est l'empreinte de la personnalité,
c'est l'humain,
de l'auteur et de l'artiste-interprète. Alors, il y a aujourd'hui un dispositif, parce que moi je me bats contre l'idée qui consiste à dire qu'il y a un flou juridique. Bon, il n'y a pas de flou juridique, puisque vous venez de parler du guide des bonnes pratiques qui va être signé aujourd'hui par la Commission.
En train d'être signé en ce moment, oui.
Voilà, il y a la directive dont monsieur vient de parler. Aujourd'hui, on a l'intégralité du dispositif législatif pour mener des actions en contrefaçon de droits d'auteur ou de droits voisins. Mais la subtilité, c'est que l'intelligence artificielle, c'est une machine, mais ce n'est pas une machine qui reproduit, c'est une machine qui apprend d'elle-même. Et elle provoque une atomisation des contenus préexistants.
Et c'est une machine qui vole, parce que nous, on nous a volé nos voix, on ne nous a pas demandé notre avis.
Et alors, je vous donne un exemple, c'est la vinaigrette. C'est-à-dire que quand vous faites une vinaigrette, une fois que vous avez mélangé l'huile et le vinaigre, vous ne pouvez plus séparer l'huile et le vinaigre. Et vous ne pouvez même pas dire là est le vinaigre et là est l'huile. Et c'est le problème, c'est
que la traçabilité.
La voix de madame et la voix de ces 1000 ou 1500 collègues qui font la même chose. On va la mettre sur une base d'entraînement. On va mélanger et on va rendre le tout. C'est une forme de maelstrom où rien n'est identifiable. Ce qui, nous, juristes, nous pose une difficulté pour les actions en contrefaçon. Si vous vous rappelez du sample, le sample, c'était on utilisait un extrait d'enregistrement dans une œuvre musicale ou un enregistrement nouveau. C'était pas compliqué, il suffisait de comparer l'enregistrement préexistant avec le nouvel enregistrement et dire ben, y a une copie de l'un par l'autre. Sauf que là, on a une sorte de hyper-atomisation et hyper-un mélange qui fait qu'on ne peut pas identifier ce qui a été volé ou pas. Donc il va falloir collectiviser, mutualiser et trouver des solutions pour protéger les artistes-interprètes, pour protéger les auteurs. Et à la fin, et ça c'est toujours pas fait, aujourd'hui, on parle de labellisation, mentionner quand c'est de l'IA. Aujourd'hui, on parle de transparence, c'est-à-dire déclarer ce qu'on met sur les bases d'entraînement. Mais demain, il va falloir régler la question, peut-être d'un droit sui generis, alors c'est un mot un peu barbare, mais le droit sui generis, ça veut dire d'un droit spécifique pour l'intelligence artificielle, puisque le bouleversement est tellement phénoménal qu'il va falloir créer de la norme spécifique et ensuite évoquer la question de la répartition des rémunérations éventuelles.
Et on va continuer à en parler, bien sûr. Benoît Carré, je le rappelle, auteur, compositeur et interprète. Vous, l'intelligence artificielle, elle tient une place certaine dans votre œuvre, dans votre création. Est-ce que vous travaillez, et je vais reprendre les mots de Marc-Olivier Demelan, en toute transparence?
Oui, je travaille. En fait, j'aime travailler en toute transparence parce que je pense que c'est la condition pour que l'IA au service de la création soit vraiment un partenaire. C'est-à-dire que si on joue avec une IA qui a été entraînée sur des données qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas, on a l'impression de jouer avec une espèce de machine impersonnelle qui va produire des résultats qui vont peut-être parfois nous inspirer, mais en même temps, on a l'impression que c'est un peu aléatoire. Et donc, moi, mon expérience, puisque j'ai commencé à travailler avec des chercheurs, une équipe de chercheurs dirigée par François Pachet chez Sony CSL en 2015, l'idée, c'était vraiment de confronter la recherche aux besoins des créateurs, des créatrices, et de confronter ensuite les œuvres des créateurs et des créatrices au public. Et on a fait plusieurs albums, j'ai fait plusieurs albums sous le nom de Skigeu, qui ont été fabriqués avec des outils d'IA, mais en toute transparence, puisque l'idée, c'était...
Justement, c'était de tester, d'essayer...
Oui, exactement, les artistes avec qui j'ai travaillé sur cet album, par exemple Hello World, Stromae ou The Jazzman, Médéric Collignon, ce qui nous intéressait en fait, c'était de nourrir la machine, ce super calculateur extrêmement puissant, avec des partitions, des musiques de notre corpus ou de notre qu'on avait envie d'entendre transformé par l'IA.
Et c'est ça toute la nuance, ils étaient au courant et consentants.
Voilà, et c'est comme quand vous achetez un aliment, vous aimez bien savoir ce qu'il y a dedans. Un aliment transformé, je veux dire. Donc, c'est un peu la même chose. Et donc, moi, je plaide pour une transparence et aussi, surtout, la capacité pour les artistes de personnaliser l'IA. C'est-à-dire de leur permettre de leur donner à l'IA les données initiales pour qu'ensuite l'IA transforme ces données-là. Parce que ce qu'a dit très bien Marc-Olivier Demelan, c'est que on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur de ces réseaux de neurones. C'est très difficile de tracer, même si on peut commencer un peu à le faire. Et c'est ça qui est intéressant. Quand on donne, c'est un peu comme nous quand on se promène dans la rue et que on vit. Et ben ça, toutes ces données en fait, toutes nos sensations sont transformées dans notre cerveau, dans notre inconscient. Et puis on va ensuite se mettre au piano ou à la guitare et on va générer des morceaux. Mais c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on maîtrise pas et on maîtrise pas tout. Et ce qui est intéressant avec l'IA, c'est qu'on peut reproduire un peu ce mécanisme-là.
Et on va continuer à en parler, comment faire une bonne vinaigrette, hein, si je reprends votre expression à tous ici autour de cette table. L'IA peut-elle être un bon partenaire dans tous les domaines? Il y a aussi le sujet des enjeux d'éthique. Que faire alors de la voix d'une personne disparue? La suite de notre débat, c'est juste après ce titre, L'inconnu en personne, de Bertrand Belin.
Je n'ai pas connu en personne les inconnus en question, ni après, ni avant, ni d'Ève, ni d'ailleurs, d'Adam, mais j'entends leurs pas dans le désert. J'entends leurs pas dans la prairie. En ville, sur une place, dans l'allée des cimetières, dans l'allée des grandes surfaces, à l'appel du printemps, je les entends se faire des promesses de hauteur, de souplesse, d'argent. Je les entends faire des prières, souvent pour eux-mêmes, parfois pour leurs congénères. Je n'ai pas connu en personne les inconnus en question, ni après, ni avant, ni d'Ève, ni d'ailleurs, dedans, il y en a un, au bord du Nil, il y en a une, dans un cul-de-sac, un autre, accroupi dans la flaque, le doigt dans une anémone, le rire qui carillonne, la face qui rayonne, une autre au bout de ses efforts, emporté dans la mort, l'amour, le carbone, je n'ai pas connu en personne.
Et pour reprendre les mots de Bertrand Belin, le fait de ne pas connaître en personne les inconnus, comme dans ce titre, ceux qui se cachent derrière une voix ou des mots, ouvrent-ils un champ libre à l'IA générative? On continue notre débat jusqu'à 12h45 et vous pouvez réagir sur l'application Radio France, nous envoyer vos notes vocales sur le WhatsApp de l'émission au 01 45 24 7000 comme Francis qui nous écrit ceci, est-il utile d'imposer des règles à une super intelligence qui trouvera toujours le moyen de les contourner. Et pourquoi on ne demande pas leur avis aux citoyens pour savoir s'ils acceptent la création d'une forme d'intelligence qui dépasse la simple intelligence humaine? Alors, évidemment, il y a énormément de questions qui se posent, vous vous en doutez, à ce sujet. Il y a notamment aussi ces sociétés implantées en Ukraine, en Israël, à Dubaï, qui moissonnent déjà des films et des séries pour entraîner les systèmes d'IA générative à créer des voix synthétiques, reconnaissables ou non d'ailleurs, et ce, sans autorisation ni consentement des comédiens, sans oublier les applications. Philippe Pétieux est acteur et directeur artistique, il est spécialisé dans le doublage, il est français, il est surtout connu, voilà, la voix d'Homer Simpson évidemment, et lui a fait les frais de l'IA générative, comme il nous le raconte.
Oui, parce que il y a des applications qui arrivent là sur Internet, et notamment il y a eu une application qui se proposait de parler avec les voix des Simpsons, notamment avec ma voix. Là, avec mon avocat, on a initié une action en justice. C'est compliqué parce que l'application, elle est à Hong Kong. Donc, au niveau législation, c'est un peu compliqué. Mais on espère avoir gain de cause, au moins faire interdire cette application, en sachant très bien qu'il y en a d'autres qui vont fleurir très rapidement, quoi. Voilà. Donc, mais on veut quand même déjà marquer le coup et puis faire cesser ce genre de pratique parce que c'est du vol. En plus, c'est une application payante. Donc, les gens font de l'argent avec notre travail, avec notre création. Voilà où on en est actuellement.
Thomas Régnier, porte-parole de la Commission européenne en charge du numérique. Est-ce que ce genre de démarche a des chances d'aboutir? Est-ce que l'IA Act va changer quelque chose?
Alors, l'IA Act, le règlement sur l'intelligence artificielle, toutes les provisions, toutes les dispositions qui touchent justement à l'IA générative entrent en application demain, donc le 2 août 2025. Donc le débat que nous menons aujourd'hui arrive vraiment à point nommé. Qu'est-ce qui va changer exactement demain pour les fournisseurs d'intelligence artificielle générative? Ils vont devoir justement publier un résumé de données d'entraînement. Comment leur modèle ont été entraînés, qu'est-ce qu'ils ont ingéré afin de devenir les monstres qu'ils sont aujourd'hui, est-ce qu'ils ont respecté les droits d'auteur, comment fonctionne le modèle, quels sont les risques, quelles sont les mesures d'atténuation de ces modèles. Tout cela sont des informations qui devront être transmises à la Commission européenne, justement, à partir de demain. Alors, il y a effectivement différentes façons pour un grand fournisseur d'intelligence artificielle générative de se conformer à ses obligations qui sont donc dans le règlement sur l'intelligence artificielle. L'une de ces façons de se conformer est justement ce code de bonne pratique, de bonne conduite que nous venons d'endosser juridiquement avec les États membres. Ce code, je rappelle rapidement et brièvement son histoire, a été développé par plus de 1000 parties prenantes. Donc c'est vraiment l'industrie, les détenteurs de droits d'auteur qui ont développé ce code, qui va aujourd'hui nous servir de standard de conformité. Alors je peux d'ailleurs vous annoncer un certain nombre de premiers signataires de ce code que nous venons d'annoncer tout juste depuis Bruxelles. Alors il y a Mistral, bien entendu, mais il y a aussi des géants comme Google, Amazon, Anthropic ou Microsoft qui viennent de signer ce code.
Alors, est-ce une obligation, une invitation, en quelque sorte, à respecter ce code à ce stade ? Je reste avec vous, Thomas Régnier. Qu'est-ce que ces fournisseurs, ces développeurs risquent en cas de non-respect de ce code ?
Alors, le code de bonne conduite est une des façons potentielles de se conformer aux obligations qui entrent en application demain. C'est suivre ce code, quand on le signe, le signer est volontaire, si vous le voulez. Donc, si vous signez ce code, nous partons du principe que vous allez respecter les dispositions du code. Nous allons bien entendu surveiller cela de près. Si vous décidez, comme Meta, vous l'aviez évoqué dans vos remarques introductives,
de ne pas le signer,
vous allez devoir, par contre, nous prouver que vos moyens de vous conformer à notre législation sont tout aussi efficaces que le code que vous décidez de ne pas signer. Donc, on va bien entendu vous suivre de très près, vous poser davantage de questions pour s'assurer que vous aussi, Meta, vous respectez les obligations. Donc, signer le code, c'est volontaire. Respecter notre réglementation, c'est une obligation.
Donc, vous poserez des questions, mais est-ce qu'il y aura des sanctions ?
Les sanctions sont possibles. Donc, si on ne signe pas le code, de nouveau, aucune sanction. Par contre, en cas de non-conformité au règlement sur l'intelligence artificielle, les sanctions peuvent être extrêmement lourdes pour ces fournisseurs d'intelligence artificielle, à savoir 7% du chiffre d'affaires annuel mondial d'un tel fournisseur si vous êtes en enfreinte aux interdictions du règlement sur l'intelligence artificielle, donc les modèles que nous ne voulons absolument pas voir sur le sol européen, et jusqu'à 3% si vous enfreignez d'autres parties du règlement sur l'intelligence artificielle.
Marc-Olivier Deblanc, Brigitte Lecordier, qui est avec moi ici en studio, est-ce que ces annonces vous rassurent ? Je me tourne peut-être
plus
vers
ou moins,
vous, Brigitte Lecordier.
Plus ou moins, oui, en fait. Tant qu'on peut cadrer toute cette affaire, ce sera bien. Nous, à l'ADAMI, comédien de doublage, nous avons signé ce qu'on appelle un opt-out, c'est-à-dire le fait qu'on ne puisse pas utiliser nos voix sans...
C'est le droit de retrait d'un comédien pour que l'IA ne puisse pas exploiter votre voix.
Exactement. Après, ce qu'on sait, c'est que nos data, effectivement, se baladent partout. Et tant qu'il n'y aura pas un cadre, justement, pour ces espèces de data qui sont partout, tant qu'il n'y aura pas une législation ou quelque chose pour empêcher ça réellement, nous serons en danger. Hein. Et il faut se dire que, quand même... moi, je parle pour le doublage, hein, mais au doublage, il y a quand même... c'est 1 milliard de chiffre d'affaires par an, c'est pas rien. C'est ça aussi qui risque de disparaître. Et il faut se dire aussi que beaucoup de gens supportent cette VF qui est hyper importante. Je vous parlais du sondage IFOP qui disait que 85% de la population écoute les animés, les films, tout en VF majoritairement.
Et puis, ce sujet soulève aussi encore d'autres enjeux. J'en parlais juste avant qu'on écoute notre titre de Bertrand Belin. C'est des enjeux d'éthique, notamment en ce qui concerne la voix des personnes disparues. Je vous propose d'écouter ici, et ça va faire réagir notre invité qui est au téléphone, Benoît Carré, auteur, compositeur et interprète. Regardez.
Congolaise, baby, aimerait sa bébé, elle. Moi, si sous Cali, je me lève, je suis déjà belle. Je suis pété sous Cali, pollen jaune, maille à la veille. Manque plus qu'une petite Pauline, même si je l'ai dit à vue la veille.
Oui. Voilà, vous avez reconnu, hein. Brigitte Lecordier, ici, on a un titre d'Edith Piaf, Congolis ou BBL de Théodora, revisité ici par Benoît Carré qui est avec nous. Y a-t-il, Benoît Carré, trop de restrictions selon vous ?
Alors, je vais juste préciser, je n'ai pas fait ce titre. Donc, j'entends là que c'est la mélodie une mélodie de Piaf sur les paroles de Congolais ou BBL, c'est ça ?
C'est exactement ça, oui.
Oui, non, c'est moi, j'ai pas fait ça, mais ce que je trouve.
Revenons-en à votre œuvre, à vous alors.
Oui, ce que je trouve important en fait, c'est qu'on sache vraiment de quoi on parle. Par exemple, sur le clonage vocal, pour le chant, par exemple. C'est quand même à distinguer de la synthèse vocale qui peut être utilisée pour le doublage. La synthèse vocale, en fait, c'est vraiment la recréation de la voix avec son rythme, sa prosodie, etc., tout ce qui la caractérise, son timbre. Alors que le clonage vocal par conversion vocale, ce que j'utilise moi par exemple, et ce qu'utilisent tous les gens qui font des fakes, vous savez, des fakes de Angèle qui chante Damso, etc., The Weeknd et Drake qui font un duo, tout ça en fait c'est une technologie qui est différente parce que ça oblige la personne qui fait ces fakes à chanter, donc à vraiment utiliser sa voix et son expressivité pour ensuite que son timbre soit remplacé par celui du clone.
Et, donc, et je vous propose, Benoît Carré, pour me rattraper, de vous écouter le faire réellement ici, avec un morceau du groupe PNL que vous chantez à travers la voix de Dalida.
Que la mif, que la mif, que la mif, que la mif, rien n'a changé dans ma putain de tête. Que du bif, que du bif, que du bif, rien n'a changé dans ma putain.
Je crois qu'on peut dire que la chanson qui me va bien en 2025, c'est Autre Monde de PNL. Je crois qu'elle décrit très bien ce paradis bleu et mélancolique dans lequel je vis.
C'est encore une démarche différente de ce qu'on a écouté un petit peu plus tôt, Benoît Carré.
Oui, l'idée là, en fait, c'est de créer des ponts entre le passé et le présent. De faire des hommages inversés, c'est-à-dire qu'en fait des artistes disparus rendent hommage à la chanson d'aujourd'hui. Et moi, je suis comme une espèce de directeur artistique d'une maison de disques un peu spéciale où j'imagine des reprises par des chanteurs, des chanteuses disparues avec des affinités imaginaires que je peux créer avec la chanson d'aujourd'hui. Donc l'idée, c'est vraiment de faire des reprises. Sont des chansons impossibles, et l'idée, c'est de faire des reprises qui mettent en valeur la chanson, qui l'éclairent, la chanson d'aujourd'hui, d'une façon différente. Et quand je joue ces chansons en concert, je vois des adolescents qui crient sur les paroles de Tiff, du rappeur Tiff, ou de la chanteuse Mickey, chantées par Gainsbourg ou Nino Ferrer. Donc, il y a vraiment, en fait, c'est une démarche à la fois artistique, qui mobilise toutes mes capacités de chanteur, puisque je dois chanter les chansons, je dois les interpréter, et ensuite, évidemment, ma voix est transformée par, est convertie, en fait, avec le clone que j'ai choisi.
Alors, vous travaillez en toute transparence, attendez, Benoît Carré, vous travaillez en toute transparence, mais est-ce que vous payez des droits, justement, sur ces morceaux?
Je paye, c'est-à-dire que les chansons que je reprends, par exemple, si je reprends la chanson de PNL, qui s'appelle Autre Monde, cette chanson que vous avez entendue.
Chantée
c'est
par
PNL
Dalida
qui perçoit, voilà, PNL perçoit les droits de. Mais pour l'instant, elle n'est pas sortie. Moi, je ne sors pas ces chansons. C'est un projet que j'interprète en concert, mais que j'ai pas encore, que je pense ne pas sortir sous forme de disque. Parce que ça pose effectivement beaucoup de questions. Les questions de droits d'auteur, ça, c'est réglé. C'est les ayants droit qui touchent les droits de la chanson. Et la question de l'interprétation, elle reste posée, parce qu'effectivement, je chante, mais il y a une partie de moi qui n'est plus là, c'est la partie de l'autre, en fait, du clone, qui est son timbre de voix, qui est peut-être son vibrato, des choses comme ça, la façon dont elle prononce ou il prononce les mots. Et ça, c'est difficile de dire, est-ce que c'est l'interprétation, où est l'interprétation, est-ce que c'est celui qui chante, ou est-ce que c'est le timbre qui est remplacé.
Donc, vous l'entendez, les questions sont encore nombreuses dans ce débat, Benoît Carré. Je vous propose de faire une pause musicale à midi et 34 minutes avec une chanteuse, une vraie, une vivante, avec sa propre voix et sans IA, c'est Alani, ici avec ce titre, Something You Said.
The other night, make me believe that I am falling into your arms. A new paradise, could it be you and I have started? You look at me. I look at you, innocent.
Something you said. Now should we change, make an affair? I wouldn't want to spoil our friendship. How will we know?
Débat de midi, Saskia Deville, sur France Inter.
Et nous sommes toujours en direct sur France Inter pour ce débat de midi autour de l'intelligence artificielle générative et bien de ce... Je vais y arriver, de tous ces bouleversements qui nous occupent notamment du côté de la Commission européenne. Je voulais juste revenir avec vous parce que vous m'avez fait des grands signes, Brigitte Lecordier, comédienne et directrice artistique dans le doublage, pour rebondir juste avant la musique ici à la Nice, Something You Said, sur les propos de Benoît Carré.
Oui.
Par rapport à toute cette question justement de l'éthique, d'utiliser de la voix d'une personne disparue.
Moi, ça me pose des questions, effectivement, de manière éthique, c'est-à-dire est-ce que on peut faire dire à quelqu'un qui est décédé, qui est mort, de n'importe quoi sans son consentement, sans l'avoir consulté avant. Est-ce qu'il a envie de chanter cette chanson de cette façon-là? Est-ce qu'il a envie de dire les mots qu'on lui met dans la bouche? Voilà, c'est un vrai problème d'éthique que nous soulevons aussi avec Touche pas ma VF.
Ça me fait penser aussi à l'émission Hôtel du Temps, hein, dans laquelle Thierry Ardisson, il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, ressuscitait des personnalités grâce à des deepfakes, donc ces vidéos, et il utilisait aussi le clonage vocal, pas pour toutes les émissions, mais pour certaines en tout cas. Qui lui consultait quand même les familles des défunts au préalable, même s'il n'en était pas obligé. Allez-y.
Il y a eu une vidéo d'ailleurs avec Sylvester Stallone qui utilisait la voix de Alain Dorval, qui est décédé, et où il y a eu un trailer qui a été fait. Et, une bande-annonce, et les gens ont sursauté, quoi. Et tant mieux. Et ça...
Voilà, il y a eu un élan sur les réseaux sociaux, effectivement.
Du coup, ils ont arrêté net.
Donc on en est resté au stade de la bande-annonce.
Tant mieux, tant mieux.
Est-ce que la voix des personnes disparues est protégée convenablement ici en France? Et je me tourne vers vous, Marc-Olivier Deblanc.
Alors oui, alors ça relève non pas de la propriété intellectuelle, ça relève ce qu'on appelle les droits de la personnalité. Alors c'est assez subtil, puisque les droits de la personnalité s'éteignent à la mort de la personne concernée. Je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit qui est fondamental, c'est les fakes. Aujourd'hui, techniquement, juridiquement, ce dont on vient de parler, ce sont des faux artistiques. Donc la question de l'autorisation et du consentement, elle est fondamentale. Mais vous savez, on dit souvent, on n'arrête pas le progrès. Mais au sens littéral du terme, le progrès, c'est un train en marche. Non, on n'arrête pas le progrès. On peut être contre l'IA, mais on peut aussi être contre la pluie. Ça ne va pas changer grand-chose. Il faut prendre le train en marche, il faut réguler, il faut contrôler, il faut sanctionner le cas échéant, mais il faut aussi penser à ce degré de sensibilité. Nous, autour de cette table, on a, et les auditeurs de France Inter, certaines sensibilités aux droits d'auteur, sensibilités à cette éducation artistique qu'on a eue. Mais quelle est la sensibilité des jeunes qui reçoivent? Je vous donne un exemple. Il y a eu un projet qui s'est appelé The Velvet Sundown, qui est sorti sur Internet et sur toutes les plateformes musicales, dont on a découvert après coup que c'était un faux groupe. Il n'y a aucun artiste-interprète derrière, qui a été uniquement généré par l'intelligence artificielle. Il n'en demeure pas moins qu'ils ont plus d'un million d'auditeurs par mois sur Spotify et qu'il y a des titres qui ont dépassé les 25 millions. C'est-à-dire qu'il faut faire de la pédagogie le centre du dispositif, des dispositifs législatifs et des dispositifs discursifs d'éducation aux droits d'auteur, aux droits d'artiste.
Il faut indiquer aussi que c'est fait par de l'IA.
Indiquer, effectivement, et ça, je crois que c'est prévu effectivement dans le code qui est justement en train d'être signé à la Commission européenne. Benoît Carré, on va quand même vous laisser répondre ici. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai, c'est une question d'éducation, d'information?
Ben, je voudrais dire deux choses, en fait. La première, c'est que tout dépend de l'intention de l'artiste. Là, moi, mon intention, c'est un peu celui du marionnettiste. J'assume le fait que ce sont des clones. Je laisse aussi les artefacts. Je ne sais pas de rendre le truc absolument parfait. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas non plus d'être dans une espèce de tromperie, parce que je montre sur dans mes performances live que je chante. Et les personnages sont vraiment des fakes, mais c'est assumé. Et ça, c'est une chose importante, parce que moi, mon but, ce n'est pas de créer des fakes pour des fakes. Mon but, c'est de provoquer une émotion. Voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, sur les droits des attributs de la personne, effectivement, les ayants droit n'en héritent pas. Donc, il faudrait qu'ils prouvent qu'il y a un préjudice moral. Ça, c'est un fait. Après, sur Velvet Soundarm, je trouve que c'est très intéressant cet exemple que vous citiez, Marc-Olivier Deblanc, parce que ça pose la question de du comportement des plateformes par rapport aux morceaux 100% générés par IA. Parce que là, on voit bien qu'il y a un peu une tromperie dans cette histoire. C'est que on met en ligne un groupe qui s'appelle Velvet Soundarm, on ne dit pas que c'est 100% IA, c'est a priori, parce qu'on sait même pas, on n'est pas encore sûr de ça, mais ça sonne quand même bien 100% IA. Alors que il y a par exemple une plateforme que tout le monde connaît qui s'appelle Deezer, qui a créé un outil qui permet de détecter les morceaux qui sont 100% IA. Et qu'est-ce que fait Deezer? Elle ne met pas en ligne ces morceaux dans le sens où elle n'empêche pas de les mettre en ligne. Ils sont en ligne, mais ils sont pas du tout recommandés. C'est-à-dire qu'ils sont comme placardisés. Et donc, c'est une attitude différente et qui, évidemment, rend les morceaux 100% IA beaucoup moins efficaces et beaucoup moins nocifs, parce qu'il faut rappeler qu'on se dirige là vers un pourcentage énorme de chansons générées par IA déposées sur les plateformes. On est à 30%. Bientôt.
C'est énorme.
Donc c'est énorme. Et donc il faut que les plateformes, et c'est à elles, à mon avis, de prendre ça en main, ce que fait très bien Deezer. Il y a aussi, l'IA peut servir beaucoup à contrer les mauvais comportements du business par rapport à l'IA. L'IA peut détecter les morceaux d'IA, l'IA peut détecter les clones vocaux, etc.
Donc, l'IA est finalement capable de tout.
Je vais reprendre
la parole, Benoît Carré, parce que le temps avance. J'ai ce message de Romain qui nous dit ceci via le WhatsApp de l'émission. À force de trop de régularisation ici pour protéger les comédiens, ne risque-t-on pas de placer l'Union européenne à la queue du train de l'innovation? Ne peut-on pas vivre avec notre temps? Et je vais vous poser cette dernière question rapidement, Thomas Régnier, qui est encore avec nous au téléphone. Avec ce règlement de la Commission européenne, est-ce qu'on ne tue pas tout ce qui est innovation en Europe?
Effectivement, non. Aujourd'hui, nous innovons en Europe. La présidente de la Commission européenne a annoncé lors du sommet de l'IA qui s'est tenu à Paris au mois de février, la présidente a annoncé effectivement que nous allons investir massivement dans nos infrastructures pour être sûr que les modèles d'IA puissent se développer en Europe, pour que l'IA en Europe puisse être compétitive avec celle des États-Unis ou de la Chine. Par contre, nous avons besoin d'un règlement, et nous l'avons, très clair, pour protéger justement les droits d'auteur, pour protéger nos artistes, pour protéger nos citoyens, entre autres. Donc le règlement est fondamental, mais il doit marcher main dans la main avec nos efforts en matière d'innovation. Permettez-moi peut-être juste de conclure en matière de droits d'auteur sur le fait que nous agissons très clairement. Nous prenons ces craintes extrêmement au sérieux depuis Bruxelles. Nous agissons pour protéger les détenteurs de droits d'auteur. Et aujourd'hui, nous agissons sur des faits très concrets, là où aux États-Unis, on se pose encore la question, et là où probablement en Chine, on ne se posera jamais cette question.
L'Europe avance donc. Merci beaucoup, Thomas Régnier, d'avoir été avec nous. Merci aussi à Benoît Carré par téléphone. Merci à nos invités en plateau, Brigitte Lecordier et Marc-Olivier de Blanc pour ce débat de midi. Signez la pétition. Voilà, merci aussi à Philippe Pétieux. Merci à toute l'équipe du débat de midi. Louise Morfois et Aurore Mancip à la programmation. Anaë Balista et Ryan Saibi, nos stagiaires. Une programmation musicale de Thierry Dupin. Une émission réalisée par Antoine Larcher avec à la technique Alex Olaré Ouajou au Tinois. Et merci enfin à nos documentalistes Carole Roy et Nomi Boncourt. Il est midi 45, c'est l'heure de retrouver le jeu des 1000 euros avec Nicolas Stoufflet à la Trinité, une émission déjà diffusée en septembre 2024.
Chers amis, bonjour.
Bonjour.
Quel fleuve qui se jette dans la baie des Anges à Nice longe la ville de la Trinité. Ce fleuve, c'est le Paillon. Nous sommes en effet à la Trinité pour cette fin de semaine, 10 000 habitants. Elle se situe aux portes de Nice, la ville de la Trinité, au nord-est immédiat de Nice. Sur le plan du patrimoine bâti, la pièce maîtresse, c'est sans doute le sanctuaire Notre-Dame de Laguet, une église construite au XVIIe siècle qui est un lieu de pèlerinage. On peut y voir notamment une exposition d'ex-voto, ces petites plaques ou d'autres objets religieux en remerciement pour un vœu exaucé. Ça peut être... Et c'est souvent d'ailleurs des tableaux, parfois des dessins, et parfois des choses tout à fait remarquables et touchantes et saisissantes dans un art parfois dit naïf. À voir absolument ce sanctuaire Notre-Dame de Laguet. D'abord, le site en lui-même est superbe. Sur le plan naturel, la ville fait partie du parc départemental de la Grande Corniche. Excellent point de vue sur le littoral, de San-Rémo à Saint-Tropez, et vers l'intérieur, les cimes bleues ou blanches du Mercantour. Sur le plan des curiosités, de la science, et toujours à propos des observations, mais cette fois-ci nocturne surtout. L'Astrorama est situé sur un ancien fort militaire, sur le site d'un ancien fort militaire à environ 650 mètres d'altitude. Du fait de cette position privilégiée, on peut y faire des observations astronomiques de bonne qualité. Et ce site, l'Astrorama, est géré par l'association Parsec. Et dans cette salle du Palais des Sports, dernier jour pour le jeu radio avec Nadège Bédoc et Thierry Olivier. Bonne chance à eux deux! Bonjour Nadège.
Bonjour.
Vous habitez Nice.
J'habite à Nice, Libération.
Nice, Libération. Décidément, on aura beaucoup parlé de ce quartier de la Libération de Nice cette semaine, parce que de nombreux candidats qui ont participé au jeu y habitent. Où se trouve d'ailleurs ce quartier de la Libération à Nice?
Eh bien, entre Nice Centre et Nice Nord, en haut de l'avenue Jean Médecin.
Et Thierry, bonjour Thierry.
Bonjour Nicolas.
Dans quel quartier de Nice habitez-vous?
Libération.
Libération. D'accord. Nous avons deux habitants, deux de plus, de ce quartier niçois qui sont venus ici à la Trinité. Nadège, je reviens à vous quelques instants pour vous présenter. Vous êtes sportive, Nadège?
Oui.
Et vous pratiquez le Qigong. Qu'est-ce que c'est que le Qigong?
Le Qigong, c'est une technique douce d'origine chinoise qui permet de travailler sa respiration, travailler sa gestuelle. Mais c'est cool. C'est tranquille. Cool et ça permet de respirer.
Ça tranquille. Fait du bien quand même.
Oui, tout à fait.
Nadège donc avec Thierry. Thierry qui est retraité de la gendarmerie nationale. C'est absolument. Ça Thierry. Vous avez toujours exercé dans la région?
J'ai fait toute ma carrière à Nice et autour de Nice. Oui. Ouais.
Et maintenant, que faites-vous alors de vos journées?
Fan de cinéma et de l'OGC Nice aussi. J'en profite.
Ouais, très bien, bah oui, c'est bien. Vous avez un beau stade, hein. Il y a un très beau stade.
Un peu loin par rapport à l'ancien, mais bon, beau stade quand même. Quoi.
Pour vous, beaucoup de sport, d'activité physique aussi
Cérébrale plutôt.
Plutôt cérébrale.
Ouais, de la marche, mais sinon plutôt cérébrale.
Ouais. Marche à pied. Tout va bien, vous êtes en forme pour jouer avec nous, vous vous sentez dans les meilleures conditions possibles pour affronter, pour tenter de répondre aux questions que vous avez tirées au sort, des questions effrayantes, bien sûr.
Bien sûr, bien sûr. On a peur de rien.
Aucun problème.
J'entends bien. Allez, je vous les pose ces questions. Première question bleue, on commence doucement, vous le savez. Une question d'Olivier Vervin au Plessis-Brion dans l'Oise. Quel est le nom de la demeure familiale du général de Gaulle à Colombelles-les-Deux-Églises, en Haute-Marne?
La Boisserie.
La Boisserie, en Haute-Marne. Question bleue aussi de Marc et Sophie Dufour du Beausset dans le Var. Dans la lagune de Venise, une île est renommée pour l'art de ses artisans souffleurs de verre. Quelle est cette île?
Murano.
L'île de Murano à Venise. Question bleue d'Hervé Bazin, pas l'écrivain bien sûr. Hervé Bazin habite Villeneuve-les-Avignon dans le Gard. À quoi se rapporte l'art brassicole? Brassicole.
Brassicole.
Oui, brassicole.
Culture de quelque chose, mais quoi? Brassi?
Pas une culture,
non, pas
mais
une
fabrication.
Une fabrication. La bière?
Ah! Au bout de 30 secondes.
Ça a brassé,
Oui, brassicole, brasseur, ça a brassé. Ça a fermenté. Et voilà donc la bonne réponse. L'art brassicole se rapporte à la bière. C'est la fabrication de la bière, les brasseurs. Question blanche maintenant, une question de Robert Bois à Auriol, dans les Bouches-du-Rhône. En permutant deux lettres du premier mot, on obtient le second. Ainsi, le fantôme devient symbole de royauté. Quels sont ces deux mots ?
Un spectre et un sceptre.
Félicitations, Nadège. Le spectre, le fantôme, le sceptre, symbole de royauté, bâton de commandement, par exemple celui d'un roi, où en permutant deux lettres du premier mot, on obtient le deuxième. Spectre donne sceptre. Question blanche aussi, envoyée sur franceinter.fr par Emmanuel Digonnet du Montel de Gela dans le Puy-de-Dôme. Quel peintre est à l'origine du premier losange du logo des voitures Renault ? Alors en fait, il existait avant, mais il l'a stylisé.
Malevitch ?
Malevitch, ce n'est pas lui.
Kandinsky ?
Kandinsky non plus.
Dali ?
Pas Dali. Le losange existait avant, mais il l'a stylisé, pour être précis. Je vous pose maintenant, Nadège Bédoc et Thierry Olivier, cette question rouge de Silver Levarlet à Rérieux, dans l'Ain. Ce stade a accueilli les Jeux Olympiques à Colombes en 1924. C'est un stade qui a accueilli, pour ces JO, les derniers JO à Paris, les épreuves de hockey sur gazon. Quel est le nom de ce stade ? Ça a été un stade majeur des JO de 1924, puisque s'y est déroulée la cérémonie d'ouverture et les épreuves d'athlétisme.
Yves du Manoir ?
Yves du Manoir, tout à fait.
Le stade de Colombes, le stade Yves du Manoir. Cérémonie d'ouverture et épreuve d'athlétisme au cours des Jeux Olympiques de 1924. Et cette année, donc, des épreuves de hockey sur gazon. Il s'appelait auparavant précisément Stade du Matin. Je reviens à une question blanche à vous reposer. C'est une question d'Emmanuel Digonnet qui habite le Montel de Jela dans le Puy-de-Dôme. Une seule réponse, 15 secondes. Quel peintre célèbre, oui, est à l'origine du premier losange du logo des voitures Renault ? Le losange existait avant, mais disons qu'il l'a stylisé. Quel est ce peintre, cet artiste ?
C'est pas Picasso ?
Une seule réponse. Vous avez dit Picasso, c'est Victor Vasarely.
Ah, Vasarely, oui.
Le Hongrois, Victor Vasarely, père de l'art optique, ou Art.
Oui,
et pour la première fois, ce logo, ce losange stylisé par Vasarely, a été apposé sur la R5, la Renault 5, en 1972. Mais le losange avait fait sa première apparition en 1925. Cette question, à propos de Victor Vasarely, rapporte à Emmanuel Digonnet au Montel de Jela dans le Puy-de-Dôme 30 euros. Vous savez, Nadège et Thierry, qu'en passant par le repêchage, vous pourrez peut-être tenter le...
Banco.
Si toutefois vous reconnaissez ce film avec, écoutez bien, Virginie Efira et Melville Poupeau.
Mais moi je vais leur dire la vérité à tes gosses sur ta petite balade en forêt.
Arrête s'il te plaît.
Je vais arrêter de te protéger auprès d'eux parce que t'es une femme dangereuse, Blanche.
Tais-toi.
C'est ça, non, tu t'envoies en l'air, il faudrait que j'encaisse sans rien dire.
Moi.
Blanche, mais moi. Mais moi je t'ai jamais trompé, Blanche. J'ai même jamais regardé une autre femme depuis que je te connais. C'est peut-être pas ça ta conception de l'amour.
Je suis juste allée me promener. J'avais besoin de réfléchir.
Au grand air.
Oui, au grand air. Oui.
Quel est le titre de ce film qui est un drame, vous l'avez bien compris, l'extrait de cette scène d'ailleurs donne le ton, c'est oppressant, c'est violent. S'agit-il d'un extrait du film Les âmes sœurs, L'amour et les forêts ou Rien à perdre ? Avec Virginie Efira notamment. Les âmes sœurs, L'amour et les forêts et Rien à perdre, film il y a quelques mois.
Allez, L'amour et les forêts ?
Oui, le film de Valérie Donzelli, L'amour et les forêts. Vous avez donc la possibilité de maintenant de tenter de répondre à la question Banco.
Pour envoyer vos questions au jeu des 1000 euros, rendez-vous à la page de l'émission sur franceinter.fr.
Cette question, nous la devons à Fernand Malnoux de Saint-Arnoult-en-Yvelines, département des Yvelines. Dans quel port français le Titanic a-t-il fait escale le 10 avril 1912 ? Il y était arrivé à 18h35, il l'a quitté à 20h10, direction l'Irlande. En sachant que le Titanic était parti du sud de l'Angleterre. Il a fait escale dans un port français avant son voyage, son dernier voyage d'ailleurs, traversée inaugurale et dernière traversée. De quel port s'agit-il ? Port français.
Cherbourg ?
Oui Thierry, Cherbourg. Le Titanic a fait escale à Cherbourg le 10 avril 1912. D'ailleurs, il est évoqué, le paquebot transatlantique à la Cité de la Mer, la très intéressante Cité de la Mer, à Cherbourg, dans le Cotentin, dans le département de la Manche. Vous avez gagné le banco, 500 euros, que vous pouvez remettre en jeu avec le...
Super, oui.
Super.
Question à 1000 euros de Suzanne Muliva à Simandre dans le Rhône. Qui est l'auteur de Sa Majesté des Mouches ?
Oh oui, merde.
Roman prenant prétexte des aventures d'un groupe d'enfants anglais ayant échoué sur une île déserte pour critiquer la civilisation. Roman paru en 1954.
Oui. Je sais pas.
À qui doit-on Sa Majesté des Mouches ?
Je le sais en plus.
T'as une idée ?
Ça me revient pas.
Ouais, moi non plus. T'es pas Boris Vian ? Boris Vian ?
Non.
Non, je vois pas.
C'est un Britannique.
Oui, oui mais ça me revient pas.
On est presque au bout de la minute, Nadège et Thierry.
Pas beaucoup d'idées, là.
Une idée, non.
Non.
Pas beaucoup, non, mais pas du tout. Même.
Pas du tout.
Pas du tout, en fait. C'est William Golding.
Ah oui.
Ah, oui non,
William Golding, qui a vécu entre 1911 et 1993, qui a eu le Nobel de littérature en 1983, et qui est l'auteur de ce roman, Sa Majesté des Mouches, qui traite de l'organisation sociale du pouvoir de la loi, et qui prend pour cadre les aventures d'un groupe d'enfants ayant échoué sur une île déserte. Suzanne Muliva, à Simandre, dans le Rhône, reçoit 45 euros pour cette question super banco. Nadège Bédard, Doc et Thierry Olivier, vous repartez avec le récepteur radio France Inter FM et DAB+, et avec le cahier de vacances coédition France Inter Marabout, toujours en vente en librairie. À lundi, si le cœur vous en dit.
Merci Nicolas Soufflet, on vous retrouve lundi à Barbera en Savoie pour le jeu des 1000 euros.
Le débat de midi à retrouver tous les jours à midi sur France Inter et en podcast sur l'application Radio France. Après les infos, la playlist Sound System de France Inter.